À table.
Bienvenue sur Chaud Patate,
l'émission du PAT,
le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère.
L'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire
sur Radio Bartas.
107 FM.
À table.
Retrouvez-nous une semaine sur deux, le mardi à 15h et le dimanche à 11h30.
Bonjour à toutes et à tous, mangeuses et mangeurs du sud de Lozère et d'ailleurs. Bienvenue dans le 16e épisode de Chaud Patate, l'émission du PAT, c'est le projet alimentaire de territoire du sud de Lozère. Aujourd'hui, c'est Floriane Rouge, la co-animatrice de ce projet au PETR, qui vous parle. L'objectif du projet alimentaire de territoire, c'est rendre accessible à tous et toutes une alimentation saine, durable et locale. Comment ? En mettant autour de la table toutes les personnes qui s'intéressent à l'agriculture et à l'alimentation et qui souhaitent s'impliquer, par exemple pour installer des agriculteurs et des agricultrices, développer les circuits courts, proposer des ateliers cuisine, instaurer l'éducation au goût et faire des ateliers potagers à l'école, ou encore favoriser l'autoproduction. L'émission précédente était consacrée au programme pédagogique de la terre au ventre et au lien avec les compétences psychosociales, ces compétences utiles à la vie que le programme favorisait. C'était Louise qui était accompagnée d'Émilie Duréel et de Claire de Promotion Santé Occitanie qui avait animé cette émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie, bonjour.
Bonjour.
Et Carole.
Bonjour.
Qui sont productrices et cueilleuses de plantes aromatiques et médicinales dans les Cévennes. Et on remercie Ben à la technique. Donc nous voulions parler de plantes aromatiques et médicinales, et d'ailleurs je crois qu'on dit aussi plantes à parfum. Toutes ces plantes, qu'elles soient sauvages, cultivées, mal aimées, et qui sont indispensables à nos vies, finalement. Donc on va aborder à la fois la question de leur production, la cueillette, évidemment les activités du GIE Plantes Infuses dont vous faites partie, qui est situé à Sainte-Croix-Vallée-Française. Et puis, pour parler après de tout ce qu'on peut faire avec ces plantes, si vous êtes d'accord.
Oui.
Juste avant de vous donner la parole, j'ai trouvé quelques chiffres sur la filière des plantes aromatiques et médicinales et à parfum, je le dis dans l'autre sens, dans un rapport d'étude qui avait été fait par une stagiaire pour Lozère Développement en 2018. Et ça rejoint ce que tu me disais, Sophie, pour préparer l'émission. Donc la filière en France, c'est surtout... Donc pour les plantes médicinales, c'est la culture du pavot et de la digitale. Pour les plantes aromatiques, qui sont plus dans le sud, on retrouve le thym. Et pour les plantes à parfum, c'est le lavandin. Et donc la France produit 90% de la production mondiale. Donc, on a une production qui existe en France. Après, sur la Lozère, on a une petite production. Donc, c'est environ 15 hectares cultivés en plantes à parfum, médicinales et aromatiques. Et ça concerne à peu près une soixantaine de producteurs et de productrices, ou de cueilleurs et de cueilleuses. Donc ça, c'est au niveau de la culture. Et ensuite, on a quelques entreprises qui transforment après ces plantes, notamment dans le domaine de l'aromathérapie. Donc on peut citer Crodarome qui est à Chanac, Sadef qui est à Aumont-Aubrac, et le GIE qui est à Sainte-Croix-Vallée-Française notamment. Donc on a beaucoup de producteurs ou de productrices qui sont indépendants, qui travaillent chez eux et qui ensuite, par exemple, sèchent les plantes, font des tisanes. Mais on a aussi des groupements comme le vôtre et une association autour du thé d'Aubrac. Donc c'est principalement des éleveurs qui aussi cultivent cette plante. Peut-être qu'on peut zoomer encore plus sur les Cévennes et peut-être vous pouvez nous dire quels sont un peu les autres producteurs et productrices de plantes, mis à part le GIE.
J'y vais, Carole, je le fais. Nous, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on fait partie d'un métier en fait où il y a une grande diversité et nous on est dans une manière de travailler bien particulière on pourrait aussi parler du syndicat des simples qui nous représente bien en fait donc le avant d'en venir au GIE, puis d'expliquer un peu notre façon de travailler. Donc le syndicat, ça veut dire syndicat intermassif pour l'économie des simples. Il a à peu près une trentaine d'années. Et il a été porté notamment par les gens qui étaient à l'origine du GIE Plante Infuse, Claire Moucault, qui est bien connue dans la région. Et puis aussi Biotope des Montagnes, avec Vicky Gerbranda, Jean-Louis Fine, qui sont un peu les grands anciens de tout cet élan du renouveau de l'arboristerie dans les années 70-80. Donc ils se disent que bah, y a quelque chose à faire dans les montagnes, avec ce biotope très préservé, loin des grandes industries, des grandes routes, etc. Et qui commencent à explorer la cueillette d'un côté et la culture, et qui vont monter ensemble donc, le syndicat des simples. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 adhérents. Et je crois qu'on partage un peu... le fait d'être quand même plutôt des petites structures, donc par rapport aux gens que tu as cités en début d'émission, des gens qui sont ancrés dans les territoires, qui vont aussi être souvent dans une pluriactivité au niveau économique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de l'accueil en même temps, il y a des gens qui font du miel, il y a des gens qui font des confitures, enfin voilà, et il y a aussi... le fait d'être dans une économie aussi de subsistance, mais au beau sens du terme, c'est-à-dire que c'est pas juste survivre, c'est qu'en même temps tu fais ton bois, en même temps tu fais de ta mécanique, enfin voilà, c'est toute une vie entière dans laquelle le fait de travailler avec les plantes prend tout son sens et qui bah, rapporte un peu de sous aussi, mais qui n'est pas forcément tout le temps, alors il y a plein de façons de travailler, hein, mais qui n'est pas tout le temps vue comme une activité que économique.
C'est une façon d'habiter le territoire.
Ben, complètement.
Et d'en valoriser une de ses ressources tout en la préservant, j'imagine.
Oui, effectivement, on se rejoint aussi dans le respect de la plante et du territoire. Et puis ça, peut-être Carole pourrait nous expliquer un peu. Il y a toute un cahier des charges très strict au simple qui porte des valeurs communes, en fait.
Oui, donc les simples, comme disait Sophie, en fait, ça a été créé dans les années 80, début 80. En fait, c'est pour valoriser et promouvoir et faire voir que aussi une autre façon de vivre existe. Donc en fait, c'est vrai que dans les montagnes, c'est pas mécanisable partout. Mm-hmm. Et en fait, on fait à hauteur et à force humaine. Donc souvent, c'est à pied, on cueille avec des faucilles, à la main, on a des draps qu'on porte. Et du coup, c'est vrai que c'est pas mécanisable et en fait, la rentabilité est pas la même. Donc c'est sûr que si on n'aime pas être dans la nature avec les plantes, les insectes, on tient pas 5-6 heures de suite. Souvent que soit on a du vent, il fait froid, si c'est mars-avril dans les montagnes, si c'est juillet-août, on a chaud. Donc la seule ombre qu'on peut avoir, c'est son chapeau. Donc c'est des méthodes complètement différentes. Et oui, les simples ont créé justement un cahier des charges où... Il y a toutes ces valeurs qui sont mises par écrit. Et donc, respecter l'environnement, les constructions, par exemple, de son matériel, le séchoir, utilisation de bois non traité, mm-hmm. de tissu, de toile. Voilà, on évite tout ce qui est plastique, colle.
Pour préserver un maximum les qualités des plantes.
Voilà, c'est ça, pour éviter donc, les coves, les composés organiques volatiles qui se retrouvent partout après. Et, du coup, oui, ça permet aussi d'avoir une qualité, de garder le parfum. Enfin, il y a tout un cahier des charges qui explique comment, les températures maximum dans le séchoir minimum, comment aérer ses plantes, qu'est-ce qui peut se sécher au soleil, les autres à l'ombre, si on peut les tronçonner. Enfin, c'est vraiment, ça explique vraiment toutes les étapes et les méthodes autorisées, on va dire, pour pas que ça dévie après. Donc, c'est autorisé par les simples et... Quand on s'engage dans cette qualité, c'est un engagement personnel aussi, puisqu'en fait, on n'est pas que là pour appliquer. Il faut aussi se réunir entre nous. Donc, du coup, il y a quand même plusieurs producteurs en Cévennes qui font partie. Je dis Cévennes parce qu'il y a aussi, nous, le massif, il comprend les gens qui sont dans le Gard et les gens qui sont aussi en Ardèche. Mmh. Donc, du coup, on se réunit au moins deux fois par an. Et en fait, on a un petit peu des fois des devoirs à faire du haut du syndicat où on nous pose des questions. Comment se sont passées notre année? Est-ce qu'on a des choses
qu'on a envie de mettre en place. Enfin voilà, il y a un investissement personnel qui fait qu'on évolue toujours. On est à l'écoute des producteurs et du coup, c'est des échanges. Il y a une fête des simples une fois par an aussi qui se fait sur deux jours. Après, il y a l'été des simples qui se fait plutôt en Haute-Vienne. Enfin voilà, c'est assez animé pour ne pas tomber dans l'oubli. Mm-hmm. Et pour dire aux gens que, ben, en fait, il y a une autre façon de vivre qu'à travers les transports en commun, le téléphone. Voilà, on peut encore s'écrire, s'envoyer des petits mots avec des petites fleurs séchées. Bon, c'est pour ironiser, mais c'est un peu ça, voilà.
Donc, en fait, ce que vous faites, c'est quasiment invisible à l'échelle de la France quand on cherche des chiffres, etc. Mais par contre, il y a une vraie dynamique et des échanges entre producteurs à cette échelle-là, en fait.
Et oui,
puisque tu parlais de massif.
Oui, c'est ça. C'est ce qui permet de continuer à vivre et puis de ne pas se sentir seul, isolé. Mmh. Des fois, on aurait vite envie d'abandonner. Voilà, c'est quand même assez physique. Et puis, ça prend énormément de temps. Mais comme disait Sophie, en fait, c'est un métier vie. Du coup, on n'a pas... Ça fait partie de notre activité dans notre vie. Et on laisse toujours une petite place voilà, pour les fleurs, les feuilles. Parce qu'on ne ramasse pas que de l'herbe, comme on peut entendre.
Mais peut-être voilà. On va peut-être justement rentrer un peu dans le détail. C'est vrai que moi, j'ai dressé un tableau très... très succinct. J'ai même pas parlé effectivement du fait que quand on parle de plantes, il y a différentes parties des plantes que vous cultivez. Enfin, vous cultivez des plantes pour utiliser différentes parties et vous en récoltez aussi. Enfin, donc on va peut-être rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'on fait ? On parle d'abord du GIE.
Bah, peut-être qu'on peut dire un petit mot du GIE, parce que la Carole nous a déjà emmené bien loin. Donc après, j'aurais envie de leur passer la parole pour qu'elle parle un peu plus des cueillettes. Mmh. Parce qu'en fait, on va focusser sur le GIE. GIE, pareil, il a une trentaine d'années. Donc il a une identité très féminine, parce qu'il a été fondé par un groupe de femmes. Claire Moucault, elle aimait bien dire que c'est un groupe de mères de famille qui voulait arrondir leur fin de mois. Alors nous, des fois, ça nous fait un peu rigoler. Moi, j'aurais envie de raconter un autre récit qui est très beau aussi, que Claire a aussi raconté. C'est aussi l'histoire d'une amitié entre Claire, qui était une néo, qui arrivait de loin, et puis Cathy Pantel, qui vient d'une famille du Pont de Montvert. Et elles se rencontrent... en faisant les études agricoles, elles ont le même intérêt pour les plantes et la cueillette. Et en fait, elles vont, de leur amitié, va quand même naître cette idée de « on va aller voir les plantes, on va ramasser les plantes ». Claire va inviter Cathy sur le Lozère. Cathy va venir faire d'autres cueillettes avec Claire. Et puis, elles vont étoffer le groupe. Et nous, on est issus de ça. Donc voilà, le GIE, bah, il s'est développé au fil des années, il a différents états, il s'est beaucoup diversifié. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment appuyé sur, d'un côté, la cueillette sauvage, qui est quand même le cœur de notre identité, moi je dirais. Parce que comme l'a dit Carole, la culture dans les Cévennes au sens large, c'est quand même quelque chose qui reste... sur des petites surfaces, avec que du travail manuel, etc. Donc une très belle qualité, mais au niveau de la quantité, pas évident à faire. Et puis au GIE, on a aussi une activité de distillatrice. Mm-hmm. Donc on a deux alambics, et on peut parfois faire quand même des grandes quantités au niveau de la production et d'huile essentielle et d'hydrolat. On a tout le volet plantes sèches, donc qui est issu de cueillettes et de cultures. Et on a un dernier volet qui est la cosmétique. Donc, ce qu'on appelle la cosmétique, pardon, c'est tout ce qui se met sur la peau. Donc ça va être une autre type de préparation qui est la macération de plantes dans l'huile. Mmh. Voilà, donc on a un large éventail de produits. Et effectivement, ce qu'on pourrait dire, Carole, peut-être aussi, c'est que nous, notre métier, il est très saisonnier. Donc, on a un calendrier de cueillette qui vaut à la fois pour la culture et la cueillette sauvage qui commence... ça, peut-être, tu peux l'expliquer. Qui commence... les bourgeons, c'est quoi ?
Oui, c'est mars. Ouais. Mars, voilà. Après, bon, en fait, on a un calendrier qui est pour l'herboristerie, donc tout ce qui est plantes sèches, et on a aussi un calendrier pour les distillations. Mmh. Bon, là, ça va... Donc, je commence par l'herboristerie. C'est vrai qu'on a tout ce qui est la gémeaux, en fait, tout ce qui est les bourgeons, donc c'est très tôt. donc mars-avril. Et après, ben, quand sortent les feuilles, on a voilà, la cueillette du bouleau, du papapa, du frêne, enfin voilà. Et après, tout ce qui est fleurs qui s'ensuit. Et aussi, on retrouve à la fin de la saison, donc je passe assez rapidement les saisons, mais à l'automne, donc tout ce qui est racines. Donc voilà, la bardane, la consoude, la fragon, petit ou voilà, valériane. Donc tout ça, après, bon, on en reviendra, mais c'est plutôt des décoctions. En fait, à chaque saison, il y a certaines plantes. Donc on commence par les bourgeons, les feuilles, fleurs, et on tombe sur les racines avec ben, tout ce qui est infusion et décoction. En fait, là, par contre, ça joue sur deux saisons, on va dire. Et après, pour la distillation, donc là, c'est un peu plus gros chantier. Voilà, on commence soit au début de saison, au printemps, avant que le gros du travail commence de cueillette donc, et de jardin aussi, hein, parce qu'il y a en même temps la production dans les petits jardins, mais qui demande beaucoup de main-d'œuvre avec le désherbage. Voilà, il faut enlever le fumier, la paille, installer tout ça. Et du coup, donc la distillation, du moins les cueillettes de distillation, ça se fait en équipe. Donc on prend le camion du GIE, on part avec les tronçonneuses, on y va à 3, 4, des fois plus. Et en fait, voilà, on coupe souvent avec l'autorisation des propriétaires qui sont parfois bien contents qu'on nettoie un peu. Voilà, leur jardin, du moins leur jardin, leur terre où il y a du pâturage après. Et du coup, on enlève les épineux, donc les genévriers. Voilà, tout ce qui est pin sylvestre qui pousse aussi, qui se ressème et qui pousse naturellement assez vite. Et du coup, voilà, nous, on tombe un peu les arbres, on coupe les rameaux et après, on se met ensemble autour d'une bâche. J'explique un peu la distillation, la cueillette. Et on se met donc autour, on rassemble les branches et après, là, on papote en ébranchant tous les rameaux.
Gaffe quand même.
Oui, voilà, on fait attention à nos doigts et du coup... Une fois tout ça cueilli, on le charge et on le descend au GIE. Voilà, et après, il y a aussi les petites cueillettes pour les petites distillations. En fait, on a deux alambics. On a un gros alambic qui a été acheté il y a maintenant bien 15 ans, je pense, qui fait 200 litres, du moins, où on peut mettre à peu près 200 kilos de plantes. Donc, un gros alambic en inox qui est fait pour justement les cueillettes à plusieurs. Et après, on a un petit alambic en cuivre qui a été monté sur un foyer rocket stove. Et donc, c'est une combustion, c'est une méthode, hein, le rocket stove de combustion.
Très efficace.
Voilà. Et du coup, là, c'est juste 30 à 50 kilos de plantes. Donc, en fait, un producteur qui a un peu de basilic, qui a du basilic, qui a un peu de bleuet, voilà, on peut le faire dans l'inox, voilà, tout seul. Et ça permet aussi une autre qualité d'hydrolat. Et voilà, du coup...
Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée du nombre de plantes que vous travaillez ?
Ouais, alors ben là, donc, ce qu'a dit Carole, ce qu'elle explique, c'est que nous, on suit les plantes. C'est-à-dire que de mars à octobre, on va tout le temps avoir une plante à cueillir. Que ça soit pour la sécher, pour la distiller ou pour la mettre à macérer dans l'huile. Donc là, tu me demandes combien de plantes on travaille.
Ouais.
Alors, nous, on a déjà fait le compte. On est à peu près à 80 plantes au GIE, différentes. Donc, qui vont être soit séchées, soit distillées, soit macérées. Et puis, c'est soit de la plante entière, effectivement, soit une partie de plante. Donc, tout ce qu'a expliqué Carole, c'est vrai qu'il y a les bourgeons, les racines, les feuilles, les fleurs. Et tout ça, ça enchaîne. Donc, ça explique aussi que le quotidien notre quotidien en tant que paysanne qui travaillons avec les plantes, c'est ça. C'est que c'est pas nous qui décidons. C'est quand la reine des prés, qui est une plante que Carole ramasse, par exemple, elle est en fleur, bah, il faut que tu ailles la ramasser. Quand il y a le serpolet, il faut que tu ailles le ramasser. Quand c'est la lavande, qui est une de nos grosses cueillettes collectives qui se passe en juillet-août, bah, il faut qu'on aille à la lavande. Et pendant ce temps-là, tu as le jardin aussi. Enfin, c'est sans arrêt jongler comme ça avec...
Il y a d'ailleurs un petit reportage de Télédrail sur la cueillette de la lavande, si vous voulez compléter cette émission avec des images.
Ouais, c'est vrai, c'était très sympa qu'elle vienne filmer un peu ce moment. C'est vrai que c'est pas évident de parler du GIE parce que déjà on est une équipe, donc on est plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Et après on travaille avec plein de plantes différentes, on travaille dans plein d'endroits différents parce que forcément pour aller cueillir les plantes, bah faut aller à la fois sur le Lozère, à Bar-des-Cévennes. descendre en garrigue pour les plantes de la garrigue. Donc en fait, on est à la fois des itinérantes, on n'arrête pas d'aller se balader. Et ça, Carole, qui est une cueilleuse chevronnée, elle pourra aussi l'expliquer. C'est-à-dire que cueillir, c'est aller voir les gens aussi, aller voir les propriétaires du terrain pour leur demander leur autorisation, pour savoir comment ça s'est passé pour l'endroit. C'est aussi observer la ressource, c'est-à-dire... Il y avait beaucoup de plantes, est-ce qu'elles vont bien, est-ce que, etc. Donc c'est tout un boulot d'aller parfois plusieurs fois pour voir quand arrive la bonne maturité et tout ça. Donc nous, on est en fait dans un métier très protéiforme, où on fait plein de choses en même temps, et aussi parce qu'on est transformatrice. Donc on cueille, on cultive, après on transforme et après on vend. Et heureusement qu'on est en équipe pour faire ça, parce que ça permet que chacune s'agence avec différents talents, des personnes qui vont plus s'occuper de la vente. Enfin, il y a énormément de choses à faire.
Tu nous as pas dit justement combien vous étiez en ce moment au GIE.
Du coup, en ce moment, au GIE, on est une équipe de 6, avec à la fois les productrices, à la fois une personne qui travaille à temps partiel et qui est une personne vraiment ressource pour nous, qui va s'occuper à la fois de répondre au téléphone, de rentrer la compta, de faire de nous passer des messages entre nous, et puis aussi une personne qui est le conjoint collaborateur d'une des productrices. Donc on a aussi un peu des statuts différents dans le GIE. Et on est toujours principalement des filles.
D'accord.
Ouais, y a une identité féminine quand même qui reste assez forte, même si on a rien contre les hommes et qu'il y a eu différentes personnes qui étaient des hommes qui ont travaillé pendant des années au GIE.
Et donc ce qui est quand même impressionnant, et moi que je relève, c'est que c'est une aventure collective qui dure depuis une trentaine d'années avec la mise en valeur effectivement d'une ressource du territoire qui est là et qui vous permet effectivement de vivre ici et de faire un métier vie qui a l'air passionnant. Donc c'est une super réussite. Nous au PETR Sud Lozère, on accompagne parfois des collectifs, soit d'agriculteurs ou d'agricultrices, soit de d'autres projets, et c'est vrai que le GIE Plantes Infus, c'est vraiment un exemple dans la longévité et dans ce que vous arrivez à faire. Et puis en plus il y a un lieu, donc c'est le bâtiment du GIE sur la zone artisanale de Sainte-Croix qui a commencé avec d'abord, si je me souviens bien, juste un premier petit bâtiment qui avait été à l'époque financé par le syndicat des Hauts-Gardons, je crois.
Ouais, sûrement. Ouais.
Et puis ensuite, vous avez agrandi en fonction de l'augmentation et de la diversité des choses que vous vouliez faire à ce moment-là. Et maintenant, c'est le GIE qui est propriétaire du bâtiment. Et j'imagine que c'est un peu quand même le lieu central pour vous et aussi pour la vente de vos produits.
C'est vrai que le GIE, du coup, comme tous les collectifs, parfois il y a plus de monde, il y a moins de monde, il y a des moments où ça se passe très bien, il y a eu aussi des moments de tension qui n'ont pas été évidents dans l'équipe, etc. Mais c'est vrai que c'est une aventure qui dure et qui nous permet de faire aussi une jolie qualité au niveau des plantes et d'être assez fiers des produits qu'on peut proposer au public. Et puis, c'est vrai que ça s'est développé. On a vraiment auto-construit l'équipe du GIE. On a passé et on passe toujours beaucoup de temps à donner aussi des heures de travail pour qu'on construise cet outil en commun. Mmh. Et c'est toujours un peu un défi à relever pour continuer à évoluer, à s'adapter aussi aux changements dans la vie des personnes avec qui on travaille. Il y a parfois des séparations, après il y a des nouveaux. Mais globalement, moi je trouve qu'effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis, ça dure dans le temps et c'est ça qu'il faut voir et qui est chouette, quoi.
Il y a un an ou deux, vous aviez eu un petit accompagnement là par l'ADEFPAT, donc c'est une asso avec qui on travaille pour accompagner des groupes qui justement avaient aidé un peu à poser les bases, enfin le fonctionnement du GIE un peu sur le papier pour faciliter l'accueil des nouveaux et des nouvelles.
C'était ça.
Oui, parce que en fait, ça évolue. On n'est plus, c'est des nouvelles qui sont là. On n'a plus tout à fait la même ambition ou volonté que les anciennes. Voilà, comme Claire Moucaud, du coup, elle disait que c'était donc des mères au foyer qui voulaient arrondir leur fin de mois. Donc maintenant, on est peut-être mère, on n'est pas vraiment mère au foyer, voilà. Mais en fait, on n'est pas là pour arrondir ses fins de mois non plus. En fait, on n'a plus la même
mentalité.
Voilà. Et puis on est ouvert maintenant le GIE aussi. C'était pour mettre à plat comment fonctionne le GIE, pour être clair quand les gens... Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je suis rentrée, c'était bon, tu sais cueillir des plantes, elles sont jolies, tu rentres un peu dans la mentalité, tout va bien. Et puis, c'est vrai qu'au final, comment expliquer à des nouvelles, c'est quoi le GIE, en fait, c'est intéressant quand même, comme là, on est sollicité... beaucoup par des personnes qui veulent faire des formations, des stages. Et il faut une cohérence entre nous pour dire comment on accueille ces gens-là, comment on explique notre métier, puisque maintenant, c'est un peu... c'est une ouverture. Les gens cherchent de plus en plus à savoir ce que c'est que de travailler, de revenir le travail avec la nature. Et du coup, on a fait ce travail-là. Qui a été long, mais très intéressant, et qui n'est pas tout à fait abouti, puisque on cherchait à écrire en fait aussi un règlement intérieur, à préciser le fonctionnement d'un alambic, comment ça marche, comment tu l'utilises et comment tu le rends à la sortie, parce qu'on a donc des collaborateurs qui sont plantes des Cévennes, après il y a la ferme de la Boria. Voilà, il y a d'autres personnes qui viennent distiller, se servir de l'outil par rapport aux alambics. Et il fallait clarifier aussi tout ça par rapport à ces nouvelles personnes. Maintenant, il y aura aussi d'autres personnes qui vont venir distiller, qui faisaient partie du GIE, qui ont quitté le GIE, mais qui auront toujours la possibilité de venir distiller parce qu'ils savent utiliser l'outil.
D'accord.
Et donc voilà, on a voulu se faire accompagner pour être clair. Même pour nous, c'est intéressant d'avoir construit et écrit tout ça. Voilà. Du coup, c'est pas un cahier des charges, mais c'est un peu comme les simples. On construit ensemble des choses et à un moment donné, on laisse une trace. Voilà.
Ouais. D'accord.
Ouais, complètement d'accord. Je crois qu'il fallait se poser pour un moment faire un état des lieux et une sorte de refondation sur « Ok, maintenant, on en est où ? Quelles sont les règles qu'on se donne ?» Et c'est vrai que c'était bien et c'est toujours... le travail, il va encore durer un petit moment avant de complètement l'aboutir, je pense. Puis en fait, peut-être que dans un collectif, c'est des questions qu'il faut se reposer régulièrement.
Ouais.
Et nous, on a été aussi tellement occupés à monter matériellement les choses, c'est-à-dire à bosser... à construire.
Fabriquer votre bâtiment.
Ouais. Fabriquer tout ça, fabriquer l'économie aussi. Et qu'à un moment, effectivement, on n'a peut-être pas assez pris le temps de revenir sur, en tant que collectif, comment on fonctionne.
Chaud patate.
Sur Radio Bartas.
107 FM.
Est-ce qu'on peut revenir sur là où vous, chacune des deux, vous êtes installée, ce que vous cultivez peut-être dans votre jardin et les principales plantes que vous cueillez aussi, qu'on ait un peu des images en tête?
Oui, alors du coup, moi, je suis dans la vallée de Rampont, donc entre Florac et le pont de Montvert. Et du coup, ça me permet d'avoir toutes les cueillettes un peu plus, montagne, comme l'arnica, l'alchémie. Et d'être sur place, en fait, et de pouvoir, comme disait Sophie, en fait, on va pas cueillir... chouette, c'est ouvert, c'est gratuit, c'est comme ça. Et en fait, c'est des propriétaires. Mm-hmm. Donc, il y a eu déjà, en fait, un lien qui a été créé depuis longtemps, justement, par Claire Moucaud et Cathy Pantel. En fait, Cathy Pantel, elle est de la région, et vers le pont de Montvert. Et en fait, c'était des cueillettes. Bon, il y en a d'autres qui ont vécu ça, sûrement, du moins, c'est sûr. Sur le mont Lozère et ailleurs, en fait, c'était pour les agriculteurs, pour les enfants et pour eux, en fait, la cueillette était inscrite dans leur vie et c'était un peu justement tout ce qui était mousse, champignons, fait, les plantes, l'arnica, ça fait des années que c'est connu en France, que c'est reconnu, que c'est une plante qui est libérée entre guillemets à la cueillette. Il y a quand même une autorisation qu'il faut demander aussi au parc quand on fait des grosses cueillettes.
Du coup, voilà, il y a une rencontre avec les paysans, avec les gens, sur le territoire. On ne peut pas rentrer comme ça. Et du coup, moi, je fais beaucoup de cueillettes sauvages parce que je trouve que voilà, la nature est tellement riche. Et puis, ça me permet d'avoir aussi un regard sur l'évolution. Voilà, quel impact je peux avoir si je ramasse les bourgeons. En fait, ramasser les bourgeons sur un arbre, on lui coupe sa croissance. Mm-hmm. Donc, ne pas toujours aller sur le même arbre, dans les mêmes lieux. Laisser aussi une partie s'exprimer. Et du coup, moi, je fais, voilà, c'est la cueillette sauvage. Et je fais un petit peu de culture. J'ai un petit peu de menthe, un petit peu d'échinacée. Voilà, des plantes qui ont une forte demande, en fait. Où on sait qu'il en manque toujours. Donc, voilà.
Tu fais la reine des prés aussi?
Oui, la reine des prés.
La reine des prés qui est une super grande plante. Et tu vois la tête de Carole qui émerge à peine de son champ de reine des prés.
Ouais, on a la tête dans le pollen, là, c'est sûr. On fait l'abeille. Après, ça, c'est une plante qui est assez sensible. Il y a eu des années où on peut pas gérer la quantité qu'on va cueillir. Parce qu'en fonction du climat, on a eu des années là où on n'a vraiment pas eu d'eau du tout juin, juillet. Et en fait, c'est une plante qui est son milieu... favorable, c'est les pieds dans l'eau, quoi. C'est un marécage et du coup, quand les terrains s'assèchent parce qu'on n'a pas d'eau, du coup, c'est une plante qui a été assez après attaquée par l'odium. Donc l'odium, c'est un champignon qui vit grâce à la chaleur, humidité. Il y a toujours un peu d'humidité, mais du coup, il y a la chaleur qui est là et en fait, la plante est malade et parce qu'elle n'a plus son milieu favori. Et du coup, on cueille pas, quoi. On est un peu attristé parce que du coup, c'est pas de pas cueillir qu'on est attristé, c'est de voir la plante malade et dépérir. Et en fait, là, depuis l'année dernière, c'est très vigoureux. Hein. La nature, elle est formidable parce que elle repart de plus belle. Voilà, c'est chouette de voir que cette plante-là, sans trop, il n'y a pas d'impact. Je suis pas là à l'aider, à l'arroser. Je laisse faire quand même la nature. Hein. Je vais pas. Et du coup, c'est chouette parce que, de nouveau, il y a une magnifique reine des prés. Et après, on est vraiment sujet à tous ces changements, du moins changements. Je ne sais pas si on peut dire changement, hein, mais en fait, il y a des impacts. Et comme l'arnica, pendant des années, là, on était un peu perturbés. Il n'y a plus d'arnica. Est-ce que ça a un rapport avec la neige? Cette année, il y a eu plus de neige sur le Mont-Lozère. Elle est restée plus longtemps, surtout. C'est pas que plus longtemps que les autres années, là où il n'y en a pas eu. Et du coup, l'arnica, cette année, il y en a eu plein. Donc, est-ce qu'on fait un lien ou pas réel? Il faudrait avoir des années de recul, même le parc. On est en discussion des fois avec Franz, qui est botaniste du parc. Et c'est vrai qu'eux, ils cherchent plus loin à faire... ils étudient, hein, mais
oui, un peu le terrain... les impacts du dérèglement climatique.
Voilà, mais du coup, personne n'a une vraie réponse à apporter. Voilà, donc est-ce qu'à un moment donné, surtout si les paysans sont là à brûler un peu les bruyères qui poussent, donc on sait que le brûlis, ça favorise souvent les repousses des plantes. Donc en fait, il y a plein d'éléments qui viennent jouer. Et en tous les cas, cette année, ce qu'on peut constater, c'est que la neige, est-ce que ça sert d'isolant ou est-ce que ça sert justement d'hydrateur à... Sur une longue période, quand la neige fond, ça laisse une terre humide, ce qui fait plus que l'arnica peut pousser. On n'a pas toutes ces données, mais nous,
en
on peut
cas,
constater
vous,
ce genre
vous
de choses.
Vous observez, chose. Quoi. Voilà. Vous faites beaucoup d'observations. Voilà.
Et après, on en tire un peu, nous, nos conclusions. Et voilà. Et on les échange volontiers avec d'autres personnes, et notamment les gens du parc qui sont comme nous, près de la... Voilà, ils sont plus protecteurs que nous parce qu'ils ont un peu peur qu'on vienne vraiment abîmer les lieux, mais on peut comprendre. Mais nous, on est là, on le répète, on n'est pas là pour abîmer. Quand on voit qu'il n'y a pas de plantes, pas assez, on n'y va pas. Voilà, on ne va pas ramasser les trois fleurs pour se dire on a la quantité.
Merci. Et toi, Sophie, t'es installée où?
Moi, je suis installée sur la commune de Saint-Martin-de-Lensuscle, donc les vallées Cévenoles. Un peu comme Carole, je cultive plutôt en mode jardin, donc vraiment j'ai pas mal de plantes, mais de toute petite quantité, et je fais après pas mal de cueillettes dans les environs de chez moi, et puis après je rejoins aussi mes collègues pour faire des cueillettes en collectif, donc ce sont souvent plutôt pour la distillation, mais pas que, Donc nous, notre façon d'être organisée, ça veut dire que tu peux aussi faire des cueillettes à deux. Avec Carole, par exemple, on peut se dire, tiens, si tu veux, on va ensemble faire le serpolet, par exemple. Et puis après, moi, je vais participer à la cueillette de lavande ou pas. Ça dépend s'il y a assez de monde dans l'équipe. Et ça, la cueillette de lavande, c'est quand même un gros rendez-vous. Qui parfois nous prend 3 semaines de cueillette, on reste sur les sites. Donc là, pareil, on a aussi le rapport avec les paysans du COS qui nous ont vraiment accueillis, protégés depuis hyper longtemps, et qui nous permettent de collecter la lavande chez eux. C'est quand même un moment phare de l'activité plante infuse. Et puis là, par exemple, à la fin de l'été, ben, c'est vrai qu'il y a les jardins où il y a plein de repousses. Ben, tu as la mélisse, tu as la sauge, tu as les mauves, les fleurs de mauve, tu as un tas de choses. Il y a aussi toutes les petites cueillettes de la distillation, comme disait Carole, pour faire des eaux florales. Ça, c'est quelque chose dont on s'était dit qu'on aimerait bien parler parce que c'est une forme galénique, donc une forme de préparation des plantes, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui sera un domaine où on pourrait parler pendant des heures. C'est, une fois qu'on a cultivé nos plantes, une fois qu'on les a cueillies, ou une fois qu'on a été chercher nos plantes sauvages, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on travaille avec? Comment on les prépare? Et ça, c'est une grosse partie aussi de l'activité GIE. Donc, on les distille. Quand on distille, on obtient soit de l'huile essentielle, soit de l'eau florale, soit les deux. Et il y a toute une partie de notre activité qui s'est vraiment développée dans les 10 dernières années, qui est autour de ces eaux florales ou hydrolats. Ces deux mots pour désigner la même chose. Et moi, je vois par exemple que dans mon activité, cette production d'hydrolats, elle prend de plus en plus de place. Par exemple, là, j'ai fait un hydrolat qu'on ne fait pas d'habitude, c'est le chiseau. C'est une plante qui a été cultivée. Là, en l'occurrence, qui a été cultivée par moi et par deux autres collègues, Magali et Estelle. On a mis en commun nos plantes, c'est moi qui les ai distillées. Et ça fait un hydrolat qui sont super bons, qui est un hydrolat pas très répandu pour le moment, qui a plein de vertus digestives, énergisantes, etc. Et qui va peut-être rentrer, ou pas, dans la gamme de plantes infuses pour l'année prochaine. Il a aussi un côté antihistaminique. Il sert aussi pour les gens, par exemple, qui ont des gros problèmes de réponse immunitaire, type rhume des foins et tout ça. Donc on pourrait imaginer faire un mélange d'eau florale autour de ce thème-là. Je me suis un petit peu perdue par rapport à ta question.
non, mais très bien, ça nous donne une idée de... Donc, tu avais du chiso dans ton jardin et vous en avez fait un...
Voilà, on s'est dit...
produit peut-être.
Ouais, voilà. Ah oui, on s'était dit, oui, c'est ça, qu'on parlerait un peu des différentes formes, entre guillemets, galéniques. C'est-à-dire, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on a tout un séchoir à plantes chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas mutualisé, même s'il y a un séchoir de secours à plantes infuses. Donc les outils mutualisés, c'est donc alambic et puis labo de transformation.
Pour les cosmétiques, notamment.
Pour les cosmétiques et aussi pour les hydrolats et huiles essentielles. Et aussi pour l'herboristerie. Donc il y a 3 labos à plantes infuses dédiés, vraiment des pièces à part. Et puis chaque personne a son séchoir chez elle et puis plein de petits matériels aussi, type matériel de cueillette et tout. Et ça vous dit qu'on fasse ça, qu'on parle un peu de la plante sèche, oui, des hydrolats, des essentiels, etc. Peut-être je fais la plante sèche et puis je te repasse pour les hydrolats, Carole. Donc la plante sèche, ça veut dire que tous les membres du GIE vont aller collecter leurs plantes de culture ou de cueillette, on a bien compris. Elles les sèchent. Donc, avant de sécher, ça veut dire que tu dois soit fractionner, si c'est des racines ou des parties dures, soit monder, ce qu'on appelle monder, c'est-à-dire détacher les feuilles de la plante. Donc, ça, c'est un gros boulot. Après, tu dois aussi trier pour plein de plantes comme le serpolet, le thym, la bruyère, etc. C'est-à-dire que tu ne veux pas les petites brindilles, tu veux juste les jolies fleurs roses de la bruyère. Donc, tu prends ton tamis et tu tamises ou tu passes au sasseur, etc. Et après, donc, ça arrive à l'herboristerie. À l'herboristerie, on va faire des mélanges de tisane tout près ou on va faire de la plante seule qui peut aussi être vendue dans des quantités un petit peu plus grandes. Et à partir de ces plantes sèches, on va les personnes qui vont les acheter Elles vont pouvoir les consommer en infusion. Donc ça, c'est la préparation classique que tout le monde connaît. On met les plantes dans une eau frémissante, on laisse infuser 10 minutes, on couvre, on filtre et on peut consommer pendant 24 heures. Après, il y a les décoctions qui sont souvent réservées aux parties de plantes plus dures, donc les racines, les baies, etc. Bon, ça s'explique. Et ça veut dire qu'on va faire bouillir la plante dans l'eau pendant un petit moment. Et il y a aussi d'autres... Après, pareil, on filtre, etc. Et il y a aussi d'autres choses qui sont un peu moins connues que je trouve super intéressantes aussi. C'est la digestion. Donc ça, c'est un truc très, très simple, par exemple, qui peut très bien se faire avec des baies cynoraux d'ong sèche. Tu les mets le soir dans une eau à température ambiante. Tu les laisses toute la nuit. Le lendemain matin, tu filtres et tu as une super boisson énergisante où tu as toute la vitamine C. Tu as un super goût et tout. Et c'est l'eau tiède, en fait, et le temps. L'allongement du temps qui a fait que ça a pu extraire les principes qu'on cherche à aller chercher. C'est intéressant aussi, par exemple, pour de la racine de guimauve, où le mucilage de la guimauve, il va beaucoup mieux passer dans une eau à température que si tu essayes de le faire bouillir, par exemple. Donc, tu auras un gel de guimauve super adoucissant pour tout le système digestif, etc. Il y a un autre truc que j'aime bien aussi, qu'on connaît peut-être moins, c'est les tisanes nourrissantes. Parce qu'on dit toujours, attention, au bout de 10 minutes, il faut filtrer l'infusion ou la décoction, sinon vous allez sortir les principes amers, ça va être moins bon, etc. Mais pour certaines plantes qui apportent des sels minéraux, par exemple l'ortie, l'avoine, ce genre de plantes, tu peux être dans la tisane nourrissante. C'est une collègue qui m'a appris ça, hein, qui travaille depuis longtemps et qui, du coup, expérimente des choses et aussi va se rapporter à de la tradition où, en fait, on peut faire ça. Tu laisses ta tisane toute la nuit, donc le lendemain, Et tu doses bien, hein, tu montes un peu la dose. Et le lendemain, tu as une sorte de soupe, on va dire, que tu peux filtrer et qui est forte, mais qui va t'apporter du coup tous les sels minéraux qui va avoir un côté vraiment. Voilà, donc là, on est parti dans le domaine de l'extraction, c'est-à-dire comment on fait à partir des plantes pour venir chercher les principes actifs, les parfums, les couleurs, les molécules qui font du bien à la santé. Comment on fait? Et là, il y a plein de façons de faire. Là, je viens d'expliquer comment on extrait avec de l'eau, chaude ou froide, avec plus ou moins de temps. Et la distillation, ben, c'est aussi une façon d'extraire.
Voilà. On t'écoute, Carole.
Oui, donc la distillation, pour partir, donc il y a deux produits qui sont tirés de la distillation. Donc le principe, c'est de mettre les plantes dans un récipient, on va dire, soit dans l'eau, il y en a qu'on met dans l'eau ou dans un récipient, et qu'on fait passer la vapeur à travers les plantes. Et donc, à la fin, bon, on refroidit tout ça par un système de refroidissement. Et donc, on obtient les huiles essentielles, donc, qui vont être à la... et l'hydrolat, donc les eaux florales. Donc, en fait, il y a une séparation qui se fait naturellement, parce que les huiles essentielles, donc l'huile... est plus légère que l'eau, donc du coup elle va se retrouver à la surface. Donc après une méthode de décantation, de filtration, nous on récupère donc les huiles essentielles et on récupère les hydrolats. Et donc nous on dit plus facilement les hydrolats que les eaux florales, hein, dans le métier. Et donc en fait c'est réputé pour les côtés purifiants, nettoyants, apaisants, et c'est beaucoup plus doux et c'est plus adapté aussi pour les enfants. Souvent, les huiles essentielles sont quand même déconseillées aux enfants, la plupart du temps. Et que les eaux, donc les hydrolats, on peut les mélanger avec de l'eau. En fait, c'est même souvent comme ça. C'est une petite quantité, on va dire un tiers d'hydrolat dans de l'eau, froide ou un peu tiède. Et donc, en fait, on peut même s'en servir, bon, je fais une aparté, en boisson. Par exemple, l'hydrolat de menthe ou de lavande ou de rose, l'été, si on ne veut pas de sucre, si on veut une boisson aromatisée sans sucre, ben, on met au frigo et c'est super. Ça, c'est vraiment un bon goût, c'est désaltérant. Voilà, et sinon, ben, en fait, les hydrolats, on peut donc les appliquer aussi sur la peau. Donc, voilà, il y a des hydrolats spécifiques comme la rose qui vont être pour la beauté de la peau. Après, il y a le bleuet ou la camomille qui sont plus réputés pour soigner les yeux, décongestionner, du moins soulager. Voilà, en fait, chaque hydrolat est un peu spécifique. Il y en a des digestifs, donc là, et qu'il faut boire. Et on peut se retrouver aussi sur des hydrolats qu'on peut mettre dans le bain. On peut soit faire des bains de pieds, donc voilà, pour soulager la chaleur l'été, les pieds qui gonflent, ou carrément dans l'eau du bain où on va se décontracter par l'odeur et puis par les bienfaits qui sont, voilà, qui rentrent dans la peau.
Donc voilà, les hydrolats, c'est un gros travail, un gros investissement, parce qu'il faut mettre la plante soit en culture ou donc aller la cueillir. Donc après, il faut apprendre à distiller. Et en fait, une distillation, c'est assez long, souvent. En fait, nous, on dose 1 kg de plante, on ressort avec 1 litre d'hydrolat. Mm-hmm. Donc on ne dépasse jamais, parce qu'après, les propriétés, du moins, les molécules sont...
Après, c'est trop dilué.
Diluées, voilà. Et donc, nous en avons bien une trentaine de variétés. Puis après, au GIE, ce qui est bien, c'est qu'on peut permettre aux producteurs d'innover, comme disait Sophie. Le chiso, ça lui faisait envie depuis longtemps. Et du coup, on ferme pas la porte. Après, on fait des recherches. Nous, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on peut conseiller aux gens, en fait, souvent, c'est tiré d'une bibliographie. Hein. On a des gens qui sont... On a des livres, on a des auteurs, on a des gens qui se sont quand même un peu renseignés. C'est des formateurs, des scientifiques. On n'invente pas, en fait, ce qu'on va dire, parce qu'on est sous le coup d'une réglementation aussi qui est assez stricte. Et en tant que producteur, on n'est pas... on ne peut pas conseiller les gens comme ça et faire de la médecine illégale. Après, c'est traduit comme ça. Donc,
on va en parler après, par rapport au statut de paysan herboriste,
okay.
Si vous le voulez bien.
Ça, Sophie, elle saura mieux nous en parler. Sophie se lance un peu aussi, des fois, dans des formations. Donc, c'est chouette, parce que là, maintenant, elle a plus de métier. Elle a plus d'années de métier. Et du coup, elle... peut se permettre de transmettre plus facilement, toute son expérience et puis ses formations qu'elle a suivies, parce qu'en fait, on continue à se former aussi. On innove tout le temps, comme là, les gens qui distillent, quand il y a des formations qui sont souvent aussi liées au syndicat des simples, qu'on cherche tout le temps à s'améliorer, à échanger entre producteurs. Donc du coup, on est en permanence à rechercher, à se perfectionner.
Et sur les autres façons de transformer les plantes, il y a aussi la macération oulique.
La macération oulique, donc où je peux dire un petit mot. C'est vrai que c'est le troisième volet un peu. Ça c'est quelque chose de très ancien que les gens connaissent souvent. Hein. On est quand même sur du savoir traditionnel aussi quand on travaille avec les plantes. Donc c'est mettre des plantes ou des parties de plantes dans une huile. Alors souvent on choisit l'huile d'olive. Après les gens ils prenaient un peu ce qu'ils avaient sous la main. Hein. Il y a une vieille recette de Hildegarde de Bingen par exemple où elle fait frire des racines de consoude dans de la graisse d'ours. Donc à l'époque, elle était en Bavière ou je sais pas où, elle devait avoir de la graisse d'ours sous la main et pas de l'huile d'olive, Donc nous, on fait pas ça, on est plus sur de l'huile d'olive. Mais on connaît souvent l'huile de millepertuis, l'huile rouge. Il y a beaucoup de gens qui la faisaient, une huile vulnéraire qui sert à soigner les blessures, tout ce qui est inflammation. Nous, on travaille beaucoup à partir de macération. Donc, on en a pareil, je pense, une quinzaine. On fait du calendula, on fait de la consoude, on fait de...
Camomille.
On fait de la camomille. On fait un mélange décongestionnant, antispasmodique que Carole produit, c'est achillée, alchimie et framboisier, par exemple. Donc, il y a une forme assez originale et qui est très intéressante. On en fait du plantain, etc. Donc, en fait, les productrices vont faire leur macération, la faire reposer dans l'huile pendant un moment. Souvent, il y a un système de chauffe. On adapte selon les plantes. Il y a des plantes qui ont besoin d'être plus chauffées, moins longtemps, plus longtemps, etc. On peut le faire au soleil, on peut le faire au bain-marie. Là aussi, on évolue dans la pratique de ce métier, parce qu'on s'est aperçu que le soleil, il apporte de la chaleur, il apporte aussi quelque chose de symboliquement très fort, parce que c'est les rayons cosmiques qui vont traverser la plante et l'huile. Mais en même temps, les UV, ça fait oxyder l'huile. Donc voilà, autant avant, on mettait au soleil un maximum. Maintenant, on a tendance à mettre un peu au soleil. Et pareil, selon les plantes, on adapte et à couvrir... à occulter les bidons dans lesquels on fait la macération pour avoir la chaleur et moins les rayons. Après, on filtre. Et après, avec ça, on utilise ces bases, soit pour faire des bouteilles de macération toutes simples que les gens peuvent employer selon leurs besoins, soit pour faire des baumes en y ajoutant de la cire, soit pour faire des huiles de massage un peu plus travaillées, avec une macération ou plusieurs macérations mélangées, et aussi des huiles essentielles de notre production, hein, en général, qu'on rajoute pour avoir une visée de soins. Et donc, voilà, ça fait qu'on a une jolie gamme aussi de 25 produits à peu près, de différents cosmétiques très simples, qui peuvent être dits des cosmétiques produits à la ferme. On a le moins possible d'intrants. Voilà, on utilise de l'huile, des plantes, de la cire d'abeille, un petit peu d'alcoolature parfois, et c'est tout. Donc, ça limite forcément le résultat, mais en même temps, parfois, on voit dans les cosmétiques des magasins, on voit produits actifs, tant de pourcents, etc. Et nous, dans nos cosmétiques, en fait, moi, je n'hésite pas à dire que 100% des produits sont actifs. Parce que les huiles sont actives, les hydrolats, s'il y en a, sont actifs. La cire, ça a un intérêt cosmétique évident. Les huiles essentielles aussi, enfin... un produit très complet.
Ok, super. On parle un peu de ce statut de paysan ou paysanne herboriste.
Ouais, j'y vais aussi.
Oui, vas-y.
Ok. Alors, en fait, j'ai l'impression que là, tant qu'on parle, c'est un peu le GIE et toutes les choses desquelles on peut parler. C'est un peu comme une boule à facettes avec plein de facettes différentes. Donc, à chaque fois qu'on se lance sur un truc, on pourrait parler de la cueillette pendant une heure, enfin, voire plus, de la transfo, etc. Donc là, tout le côté réglementation. Il faut savoir qu'on n'a pas la réglementation pour la plante sèche. Pour les huiles essentielles et pour les cosmétiques. La réglementation cosmétique, elle est la même pour nous que pour, je sais pas, Estée Lauder ou Yves Rocher. C'est-à-dire pour les petits comme pour les grands, on doit avoir une évaluation de sécurité, on doit avoir une super bonne traçabilité, etc. Donc il y a des très bonnes choses dans cette réglementation. Il y a des choses aussi qui sont très contraignantes pour des petits comme nous, qui cherchons avant tout à valoriser nos productions. Donc nous, quand on a je ne sais pas, 25 millilitres d'huile de mélisse, qui est une huile essentielle super intéressante, super rare, etc. On aimerait bien pouvoir la valoriser en faisant une petite huile de massage, par exemple. Mais si on veut faire ça, il faut qu'on pose un dossier infoproduit, il faut qu'on ait une évaluation de sécurité qui nous coûte cher, etc. Donc, en gros, on ne le fait pas. Bon, ça, c'est pour la cosmétique. Après, pour la plante sèche, on a aussi tout un historique, c'est que le métier d'herboriste, c'est-à-dire la personne qui pouvait conseiller les plantes, là on est sur la santé. Nous, au GIE, on se situe plutôt sur le soin en général, c'est-à-dire le bien-être, le fait de rester en santé. Mais les herboristes, ils pouvaient aussi soigner quand il y avait une infection, une maladie, au sens médical. Or, ce métier d'herboriste, il a été supprimé par Pétain en 41. Donc, il n'y a plus d'herboristes. Les herboristes qui restent, c'est les herboristes qui sont maintenant très âgés, je crois qu'il n'y en a plus, qui se comptent sur les doigts d'une seule main, qui ont eu leur diplôme avant 1941. Donc, il y a un trou. Il y a un intérêt pour les plantes. Il y a des gens qui produisent des plantes. Il y a des gens qui font des écoles. Il y a plein d'écoles qui forment au volet agricole de la production, mais qui forment aussi au volet soins. Il y a plein d'écoles très intéressantes en France et en Europe aussi d'ailleurs, où tu apprends comment soigner avec des plantes, mais en vrai, dans la législation française, tu n'as pas le droit. Donc, c'est un vrai problème. Depuis 1941, évidemment, il y a eu plusieurs fois des mouvements de professionnels qui ont dit « mais il faut rétablir cette profession d'herboriste » et à chaque fois, il y a une levée de boucliers, en gros quand même des pharmaciens et des médecins qui ont dit « ah non, c'est pas possible, les herboristes, des gens qui font n'importe quoi, etc. » Donc il y a toujours eu, à chaque fois qu'il y a eu même portée au niveau de l'Assemblée, etc., des gens qui ont dit « allez, on rétablit cette profession », ça n'est jamais passé. Et moi, je dirais qu'il y a depuis une dizaine d'années, donc il y a la Fédération des paysans herboristes qui s'est montée, et il y a un travail de fond qui est fait d'ailleurs au sein du syndicat des simples de manière très importante pour qu'on arrive à sortir de cette situation où en fait, il y a vraiment un chaînon manquant entre la production de plantes et le public. Et le public aurait vraiment besoin d'avoir des gens qui sont formés, qui peuvent conseiller, qui peuvent... Alors, prescrire, ça restera pour les médecins, mais conseiller les plantes de manière sécurisée et avisée. Et du coup, comme la profession d'herboriste, on n'arrive pas, toujours pas à, à l'amener, il y a un travail autour de paysans herboristes, sur le modèle de paysans boulangers, paysans glaciers, etc. C'est-à-dire des gens qui auraient à la fois la compétence de cueillir, de cultiver, de transformer, mais aussi de conseiller d'une manière encadrée, avec une formation à la clé. Et cette formation, maintenant, elle existe. Donc là, les premiers paysans herboristes, il y a deux CFPPA qui ont proposé cette formation, notamment à Nyons. La première
promotion
est sortie cette année. Donc moi, j'ai eu un jeune gars en stage chez moi qui faisait ça, et j'ai vu un peu ses cours et tout. C'était super intéressant. Et l'association a aussi réussi à faire valider par les instances nationales le nom de paysan herboriste. Donc cette profession existe, il y a une formation, il y a des diplômés. On propose à nous, par exemple, des gens qui travaillons depuis longtemps, de faire des VAE, donc des validations d'acquis. Alors c'est assez compliqué, il faut vraiment prouver sa compétence, etc. Donc j'espère, et puis il y a de plus en plus de gens qui en fait travaillent. Il y a Christophe Bernard avec la Guilde des praticiens en herboristerie. Lui, il a dit, je sors du placard, en fait nous, lui s'est formé à l'étranger, notamment dans le domaine anglo-saxon. Il fait lui-même des formations. En fait, il y a plein de gens qui travaillent, qui conseillent, ça existe. Mm-hmm. Il y a les naturaux qui conseillent les plantes, etc. Donc, il y a vraiment un mouvement qui pousse en disant, allez, il faut encadrer les choses, il faut que ça change. Et je pense que c'est tout doucement en train de changer. Enfin, moi, je sens vraiment, quoi. Depuis que moi, je fais partie du GIE, ça fait 20 ans, je vois qu'il y a un intérêt pour les plantes. Alors, peut-être dans notre petite Lozère, etc., mais même au niveau plus national, etc., on le voit avec le syndicat, enfin, on bouge quand même, etc. Il y a vraiment un intérêt, une envie des gens, une curiosité. Les gens sont beaucoup plus formés. Ils savent ce que c'est qu'une huile essentielle, ce que c'est qu'une eau florale, etc. Et du coup, ben, il faut que tout ça s'aligne et que ça avance. Et je pense que c'est en train d'avancer.
Merci à toutes les deux pour ce grand panorama. Là, vous nous avez embarqué pendant une heure là, sur les plantes. C'était super. Pour terminer, est-ce que vous auriez un petit conseil de lecture à nous donner? Puis on mettra aussi des titres sur le site de la radio.
Eh bien oui, moi j'ai envie de parler d'un livre que j'adore qui s'appelle « Tresser les arbres sacrés ». L'auteur, c'est une femme qui s'appelle Robin Wall Kimmerer. C'est une femme des États-Unis qui fait partie des Premières Nations et qui est aussi devenue prof à l'université. Donc elle tresse ses deux savoirs. Et au début de l'émission, tu as dit que les plantes étaient indispensables à nos vies, et elles sont vraiment indispensables à nos vies parce qu'en gros, elles font aussi l'atmosphère de la Terre qui nous permet de respirer. Et du coup, cette femme, elle partage vraiment une idée que je trouve super intéressante, c'est celle de la réciprocité avec le vivant, c'est-à-dire les plantes, ben, elles nous font respirer, elles nous nourrissent, elles nous soignent, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour elles? Et par exemple, elle dit que écrire ou parler des plantes, témoigner de leur importance et de ce que disait Carole aussi, c'est-à-dire de respecter, d'observer, d'être en interaction, pas juste être à prendre, mais aussi à donner, et ben c'est aussi une façon d'être en réciprocité.
Mais merci beaucoup. J'ai quelques petites annonces pour le projet alimentaire de territoire. Premier rendez-vous le lundi 29 septembre à 18h30 à l'Institut Agro à Florac, où une dizaine d'habitants du sud de Lozère vous proposeront une conférence gesticulée collective et interactive autour de l'alimentation et de la nécessité d'une sécurité sociale de l'alimentation. Donc n'hésitez pas à venir participer, c'est un projet qui est porté par le PETR en partenariat avec plein d'autres structures, et il y a même déjà une association toute récente qui va porter ce projet. Et cette conférence, elle a été préparée avec l'association de l'Atelier Populaire. Ensuite, il y a toute une session d'ateliers culinaires pendant tout l'automne. Donc, par exemple, le 2 octobre à Florac, un atelier autour des fabuleuses légumineuses. On va avoir aussi deux défis culinaires animés toujours par le réel dans le cadre du PAT. Un le 12 octobre à la journée de la châtaigne et au relais de l'espinasse, et un autre au moment de la fête de la soupe.
Jardin Nature 48 nous propose un atelier compost le samedi 18 octobre dans le jardin de Jean-Jacques à Ispagnac. Et ensuite, on a aussi des événements organisés par l'Institut Agro autour de l'alimentation. Donc deux conférences, une le mardi 7 octobre avec la projection « Le ventre de l'école » et une autre le jeudi 9 octobre autour d'Anthony Fardet qui est chercheur à l'INRAE. Et sa conférence s'appelle « Pourquoi se compliquer ? Bien manger est si simple ». Donc voilà, n'hésitez pas à venir participer à toutes ces soirées. Et donc encore merci à vous, Carole et Sophie. Et puis à bientôt. Et allez voir sur le site de la radio et celui du PETR pour avoir des idées de lecture pour l'hiver.
Merci à toi, Floriane.
Merci beaucoup.
Chaud patate
sur Radio Bartas.
107 FM.